Comment tu t'appelles?
Nezegeyman.
Qu'est-ce qui t'est arrivé?
Neram.
Ce sont les miliciens du Neram.
Qu'est-ce qui t'en fait?
On m'a fait un coup de massue.
Quand?
Je me souviens plus.
Et où est ton papa? Où est ta maman?
On les a tous tués.
Tu as vu ça?
Oui, j'ai vu.
Tu es tout seul?
Je suis seul.
T'as pas des frères, des sœurs?
On les a tous tués, il ne me reste plus rien.
Redis-moi ton nom.
Nezegeyman. J'ai 10 ans.
On a tué ma femme, on a tué mes deux bébés. On a tué ma vieille maman. On a tué mes soeurs mariées, et le mari, et les neveux, les nièces, etc. Non, bon, c'est beaucoup.
Ils ont brûlé notre maison. Mm-hmm. Et puis ils ont pris, mon bon père était vieux. Mm-hmm. Ils l'ont pris, et puis mes deux enfants. Ils ont d'abord coupé la tête, ainsi que le sexe du bon père. Et puis ils l'ont mis là-dedans et ils l'ont brûlé le cadavre.
Le génocide, c'est un crime qui ne vieillit pas.
Voici l'image. C'était le premier Tutsi que j'ai tué.
Le Lemons.
Je le connaissais.
Tu sais son nom?
Oui.
Rwaber.
Il s'appelait Rwaber.
Et tu l'as frappé?
Oui, sur sa tête.
Tu te souviens de ton premier Tutsi?
C'est quelqu'un qui s'appelle Clément. C'est lui que j'ai frappé le premier.
Et toi?
Moi, c'était une femme que j'ai frappée. J'ai frappé très fort.
Elle était consciente?
Oui,
elle me regardait, elle me fixait.
On a frappé combien comme ça?
Comme nous étions nombreux, je frappais, j'avançais, les autres derrière continuaient à frapper celui que j'avais déjà frappé. Je frappais. C'était plein, je frappais sur beaucoup de têtes.
Et tu m'oublies beaucoup. Pour avoir
Moi, ce dont je me rappelle, c'est que les gens qui sont morts, c'était nos voisins, nos amis.
Les gens
qui sont morts ont partagé tout. Maintenant, je regrette. Je ne peux pas comprendre ce qui m'a poussé à tuer mon voisin.
Quand ils sont arrivés les Français, ils nous ont dit, est-ce qu'il y a des gens qui sont en train de tuer les gens? Nous sommes venus, nous leur avons montré les cadavres, les corps. Nous leur avons montré ce qui s'était passé ici. Alors ils ont fait demi-tour. Quand ils ont fait demi-tour, les Hutus nous ont massacrés ici. Alors ils sont revenus, l'armée française est revenue en force, après, pour constater, ce n'était que des cadavres. Des corps jonchés cette colline. Tu vois ici.
Mais vous parlez pas des massacres. Il y a eu des massacres considérables au Rwanda.
Pardon?
Il y a eu des massacres au Rwanda.
Quand est-ce que...
C'est encore pire. Dans un tourbillon, il y a un amalgame, une véritable grappe de corps comme ça. Une femme, une autre femme, un enfant, des chairs blanchâtres, bleues, encore un peu habillées dans les herbes. Et ils tournent en rond, c'est comme une danse, c'est comme une... Il y a un enfant, très... Les suppliciés, les sacrifiés, les damnés, les massacrés.
Le 23 mai 1994, frontière Tanzanie-Rwanda.
On se demande combien ça fait en tout. Parce qu'on a sous les yeux, là, je vois une jambe de gosse pris dans les rochers. On voit une jambe qui flotte. Après, dans l'herbe là-bas, qui tournoie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On n'ose pas. On ne sait plus si c'est du bois qui flotte, si c'est du corps, si c'est... Et là-bas, de l'autre côté du bras... Dans les herbes, là-bas, ça tournoie encore, ça brille un peu sous le soleil. Il y a encore... Et puis il y a tous ceux qui passent dans les remous, qui doivent passer dans les remous, qu'on ne peut pas voir à cause des vagues, enfin, de la mousse. Alors, on voit que ceux qui sont retenus quelques instants, comme ça, avant de repartir. Des grands, larges tourbillons. Rêve là, il y a des fleurs dans les arbres, il y a des papillons, il y a des oiseaux, il y a très très beau qui, si on a, là-bas il y a encore d'autres petites singes noires qui sautent de pierre en pierre. Et là sous moi j'avais cru que c'était une fleur un peu bleue et mauve, c'est une chaussure de femme qui a été jetée comme ça dans la précipitation.
C'était le 23 mai 1994 et les corps étaient de la même couleur que les eaux du fleuve. On voyait un adulte, on voyait deux enfants, on voyait un bébé qui tournoyait dans les remous par deux ou par grappes, sans tête, sans bras, parfois à pieds et poignets. Et les cadavres, étrangement, étaient devenus pâles comme nos corps de blanc. Au-dessus de nous, en haut de la chute, on voyait apparaître un corps, et puis un autre encore, suspendu un instant sur le vide, et puis qui tombait à pic et qui disparaissait dans le grondement. Et soudain, j'ai fermé les yeux. C'était comme une brochette géante, à contre-jour. Plusieurs corps, adultes, enfants, une famille entière, embrochés sur une longue et mince barre de fer, suspendu un instant, puis qui a basculé en tournoyant dans le bouillonnement. Et quelque chose de bien plus vaste s'effondrait alors, de bien plus profond, pas seulement à cause de l'horreur, mais à cause des causes de l'horreur. Une faillite de l'humanité et de l'humanité intime de chacun. Nous n'étions pas témoins d'un malheur de plus, un tremblement de terre, une épidémie, ni même une soudaine flambée de haine raciale, pas plus qu'une quelconque guerre tribale, même ethnique. Non, ni fatalité, ni accident, mais un accomplissement. L'accomplissement prévisible, annoncé, planifié, d'une extermination de masse médiatisée en direct. On estime que 75% des Tutsis du Rwanda ont été, en 3 mois, massacrés, soit environ 12% de la population. Si l'on rapporte ces chiffres à la France, c'est comme si près de 8 millions de Français avaient été pourchassés, violés, découpés, achevés par des tueurs consciencieux, zélés, joyeux. Des corps qui auraient été entassés dans les rues, dans les églises, dans les écoles, dans les hôpitaux, des hommes, des femmes, des enfants. Et ceci 3 mois durant, suivant un planning précis, avec de la musique et des conseils à la radio pour tenir la cadence, avec des plages de repos prévues et des primes pour les travailleurs partant au boulot, en chantant, rentrant le soir pour déguster une bière et s'endormant serein dans un pays devenu une immense boucherie, un gigantesque charnier, sans un seul pouce, sans un seul centimètre de terre qui n'eût été gavé de sang. Si ces morts nous regardent toujours dans les yeux, c'est parce qu'ils ne sont pas le résultat des forces aveugles de l'histoire, mais d'une entreprise humaine, politique, réfléchie, planifiée, moderne, et sur laquelle nous avions prise, à tout moment, il était possible d'arrêter le massacre. Le pays des mille collines, le Rwanda, c'est la Suisse de l'Afrique, une sorte d'Autriche avec des bananiers. Bien loin de l'image d'une Afrique primitive, bariolée, nonchalante et naïve. Non seulement durant 3 mois, le déroulement du génocide fut parfaitement maîtrisé, administré, discipliné, parfois encouragé et béni par l'Église, mais l'extermination avait été pensée depuis des années, établie selon une idéologie conçue par une élite politique éduquée et mondialisée. Élite qu'on appelle aussi la quatrième ethnie, aux côtés des 3 ethnies définies par les théories raciales des colonisateurs belges et des missionnaires, à savoir les Hutus, 85%, les Tutsis, 14%, et les Twa, 1%. On désigna à côté une 4e ethnie, celle des élites, qui assurait la domination en utilisant la démagogie ethnique pour mobiliser leurs troupes, en diabolisant l'autre race comme un fléau mortel dont il est urgent et salutaire de purifier radicalement l'humanité. Des manipulations qui n'ont pas un caractère spécialement africain, on l'a compris, car au même moment, la purification ethnique faisait rage dans l'ex-Yougoslavie, mobilisant nos pense-à-tout médiatiques et leur indignation kilométrique, eux qui répétaient, et tout ça se passe à 2 heures d'avion de Paris. Vous le savez, ce jour-là, ce 23 mai 1994, il y aura tantôt 10 ans, à Nyarubuye, une paroisse au sud-est du Rwanda, nous avons trouvé une fillette qui s'appelle toujours, grâce à Dieu, Valentine. Et c'est d'abord elle, c'est d'abord cette rencontre, ces retrouvailles que nous allons célébrer pour ce 10e anniversaire du génocide du Rwanda. Non pas pour la mise en scène avantageuse de notre générosité sur le théâtre du malheur des autres, mais pour contribuer à éclairer les causes et les responsabilités. L'histoire du génocide du Rwanda sera longue à écrire. Ce travail est en cours. Malgré le mot, le génocide du Rwanda ne préoccupe que des cercles limités et spécialisés de l'opinion. Et longtemps, on le sait, le génocide des Juifs et des Roms a occupé une place secondaire et vague dans les esprits. Il a fallu une génération pour que l'humanité prenne conscience de la dimension de ce crime contre elle-même. L'oubli n'était pas seulement dû à l'étourderie des hommes. Les mêmes forces de négation et de blanchiment sont à l'œuvre aujourd'hui avec la mémoire du Rwanda. Les assassins de cette mémoire, comme ses proxénètes. Il faut du temps pour comprendre ce que l'on ne peut pas imaginer. Il faut du temps pour comprendre que c'est arrivé à nouveau et que nous n'avons rien fait alors que nous savions. Mais il faut refuser la culpabilisation généralisée. Il y a des responsabilités. Les nôtres sont de contribuer à définir ces responsabilités et les causes du désastre. Il faudra beaucoup de temps pour absorber ce nouveau bloc d'abîme. Car comment garder la foi dans une justice, la foi dans une politique, la foi dans notre capacité à fabriquer de l'évitable. Mais, il y a toujours un mais, il faut toujours un mais, même si nous ne croyons plus à grand chose. Soma Bulano, Rhodésie, 1896, disait ceci. Vous pouvez nous exterminer, mais les enfants des étoiles ne seront jamais des chiens. Ah, ça c'est fou. Ah. C'est un enfant tout petit, il a 7-8 ans, c'est gosse, il a un bout de... Il y a une mouche sur son crâne, et c'est un bout de son crâne qui a été tranché avec un coup de machette ou de houe. Et il est là devant moi, là on m'expose toutes les douleurs. Ils sont tous blessés, alors voilà un garçon qui lui montre son torse, il a une cicatrice partout, lui il a le pied complètement esquinté, c'est tous les blessés. On va parler avec le petit. Viens voir. Comment tu t'appelles?
Nezegeyman.
Tu es une fille ou un garçon? Parce qu'on voit pas.
Je suis un garçon.
Qu'est-ce qui t'est arrivé?
Ce sont les miliciens du Neram.
Qu'est-ce qu'ils t'ont fait?
On m'a fait un coup de massue.
Quand?
Je ne me souviens plus.
Et où est ton papa? Où est ta maman?
On les a tous tués.
Tu as vu ça?
Oui, j'ai vu.
Tu es tout seul?
Je suis seul.
T'as pas des frères, des sœurs?
On les a tous tués, il ne me reste plus rien.
Qui s'occupe de toi ici?
C'est un militaire qui m'a retiré de la forêt et m'a ramené ici. Et puis maintenant, il y a un autre là, un homme qui s'occupe de moi.
Redis-moi ton nom.
Nezegeyman.
Quand est-ce que tu es né?
Quel âge as-tu? J'ai 10 ans. Mon creuset?
C'était vers le 20 mai 1994. Nous étions au Burundi avec l'ami Salvatore, traducteur, journaliste et ami. Et on rencontrait ces réfugiés, ces rescapés du Rwanda qui avaient réussi à franchir le fleuve, la Kagera. Et ce que nous étions en train de voir, ce que nous étions en train d'enregistrer, on ne croyait pas. On ne croyait pas du tout les mots de cet enfant. On pensait que ces gens étaient frappés, sidérés, choqués, ce qui était vrai, mais que leurs mots étaient à l'image de cette sidération, à l'image de leur douleur. Or, en réécoutant des années plus tard, 10 ans plus tard, tous ces témoignages, notamment dans ce camp de Matongo, au Burundi, du côté du Burundi, tout ce qu'on nous disait alors était précis, était exact, et c'était ça. Il n'y avait aucun abus, aucun excès dans ce qui nous était raconté. Même l'horreur dépassait, était plus grande encore que ce que les gens nous rapportaient. Cet enfant, beaucoup d'autres, avaient réussi, c'est ceux qui avaient réussi à fuir les massacres qui s'étaient multipliés au lendemain de la chute de l'avion et de l'attentat contre le président du Rwanda. Dans les heures qui ont suivi, vous le savez, des massacres ont commencé et puis se sont étendus, se sont répandus à travers tout le pays, selon des plans impeccablement réalisés, prévus, conçus, avec l'autorité de l'État. Un génocide ne peut se produire, ne peut se réaliser qu'avec le parfait contrôle de l'État. Aussi, dans les jours qui ont suivi, les massacres ont eu lieu avec la participation de l'armée, avec la participation de l'administration, des préfets, des bourgmestres, de la police, de la gendarmerie et de milices qu'on appelle des Inderahamwe, vous entendrez ce mot souvent dans les jours qui viennent, qui étaient des milices depuis longtemps préparées, entraînées aux fins de ces massacres et de cette extermination. Ceux que nous rencontrons là ont réussi à fuir, ils savent pas très bien comment, ils n'ont pas encore réalisé comment, ils ont réussi à franchir le fleuve, dans les heures qui ont suivi le début des massacres, les pirogues ont été supprimées, les piroguiers ont été tués ou interdits de faire traverser le fleuve, de façon à ce qu'au moment où les fuyards essayent de franchir le fleuve pour se réfugier en Tanzanie, on puisse les attraper et les jeter dans le fleuve. Dans le fleuve au-dessus duquel nous nous sommes trouvés assez longtemps, au-dessus du fleuve Akagera, on pouvait voir passer ces corps qui tournoyaient. Le 23 mai, on estimait à 30 000 le nombre de corps qui étaient déjà passés dans ce fleuve. Les gardes frontières du côté Tanzanie disaient qu'ils s'amusaient à les compter et puis que finalement ça les endormait. Ces corps ont suivi le fleuve Akagera et puis on rejoint le lac Victoria, ce très grand lac, on dit l'Afrique des grands lacs. Eh bien, le lac Victoria est un de ces grands lacs. Et un peu plus tard, quelques jours plus tard, on évaluait à 40 000 le nombre de corps dans le lac Victoria. Le lac Victoria, le Nil traverse le lac Victoria et puis le Nil continue vers la Méditerranée. Et la Méditerranée, ben c'est chez nous, c'est sur nos côtes, c'est sur nos rivages. Alors que nous étions au Rwanda il y a 10 ans, en cette fin mai 1994, c'était le Festival de Cannes. Et avec nos amis Salvatore, avec Jérôme Bastion, le journaliste, le collègue qui me tenait compagnie, qui m'aidait pour ce reportage, on imaginait qu'un seul de ces cadavres arrive jusque à Cannes et s'invite au Festival de Cannes et arrive comme ça sur le tapis rouge, l'escalier. Quel scandale ça aurait été. Quel mauvais goût, l'histoire que je vous raconte. Et pourtant, ce jour-là, 8 000, 10 000 personnes étaient massacrées. Pourquoi ? Pour avoir le tort d'être né Tutsi, de porter cette qualification ethnique inventée par les colonisateurs, ou bien pour être des Hutus qu'on qualifie de modérés, c'est-à-dire opposé à l'idéologie ethniste du pouvoir.
Là, c'est une jeune fille qui est devant nous. Elle a des traces, des cicatrices épouvantables sur le front et sur l'arcade sourcilière. Comment tu t'appelles ?
Clotilde.
Et qu'est-ce qui t'est arrivé ?
On m'a fait un coup de machette. Ils sont venus, on nous a fait sortir de notre enclos. Une fois dehors, ils ont dit qu'ils allaient nous massacrer. J'étais avec ma mère, mes trois petits frères. Et puis ils nous ont amenés. Arrivés sur la rivière. Ils ont commencé par ma mère, on l'a coupé la tête. Après, ils l'ont jeté à l'eau. Et puis, ils ont pris un autre enfant, un petit frère. Ils l'ont tué, l'ont jeté à l'eau. Et l'autre aussi, on l'a pris, on l'a jeté à l'eau. Et puis, ils m'ont pris vivant, ils m'ont jeté à l'eau. Et puis ils m'ont trouvé avec une pirogue, ils m'ont fait un coup de massette. Et puis ils sont partis se partager ce qu'ils viennent de prendre comme butin. Il y avait trop de cadavres quand on a traversé, il fallait qu'on essaie de se faufiler entre les cadavres pour traverser, même sous le pirogue. Il y avait beaucoup de cadavres. Je suis seul de ma famille, à part le reste qu'on a rencontré après les massacres.
Qu'est-ce que tu vas faire ?
Je ne vois pas comment je vivrai. Je continuerai à cohabiter avec les gens que j'ai rencontrés dans le camp. Vivre ici, ça m'est très difficile, je ne sais pas comment le dire.
Qui a tué tes parents ?
Ce sont des voisins qui étaient avec la milice Interahamwe.
Pourquoi ?
Ils n'avaient pas d'autre raison, ils disaient que nous étions des Tutsis.
Est-ce que tu as envie de te venger ?
Je ne pourrais pas me venger. Dieu seul va les punir.
Pas question de rentrer au Rwanda ce jour-là, ce 23 mai 1994. Nous étions sur ce pont qu'un journaliste a appelé, Jean Chatin a appelé le pont des suppliciés. Et c'est vrai que c'était le pont des suppliciés, mais il n'était pas question de rentrer au Rwanda, c'était impossible. Les journalistes étaient indésirables, et surtout les journalistes français, le poste frontière de l'autre côté, côté Rwanda, sous une grande pancarte qui disait « Bienvenue au Rwanda » était gardée par le FPR, et nous n'étions pas bienvenus. Mais à force de pourparlers, à force de discussions, à force de persuasions, au bout de plusieurs heures, soudain, un sergent du FPR nous a dit « On vous emmène ». On a entendu parler d'un charnier quelque part, nous n'y sommes pas encore allés, mais si vous voulez nous suivre, on va essayer de le trouver. Il y avait là trois autres journalistes tanzaniens qui avaient leur véhicule aussi, et c'est ainsi que nous sommes partis, nous sommes entrés dans ce Rwanda absolument désert. Absolument désert, le Rwanda, quelques jours auparavant, à la fin avril, toute la région avait été vidée de ses habitants. Tous étaient partis, s'étaient réfugiés en troupeaux serrés vers la Tanzanie. À la fin avril, dans les derniers jours d'avril, 25, 26, 27 avril, 200 000, 250 000, on avance même le chiffre de 300 000 personnes avaient franchi ce pont en l'espace de 3 jours pour s'installer en Tanzanie. Et là, dans ces camps, nous en reparlerons, eh bien, le Hutu Power allait préparer la revanche. Voilà pourquoi nous entrons dans un pays vide, des maisons, parfois des maisons brûlées, parfois un vieillard qui erre entre des maisons brûlées parce que il a été abandonné. Et en suivant l'escorte du FPR, nous cherchons où peut bien se trouver cet endroit de Nyarubuye. L'escorte, les militaires qui sont là viennent d'Ouganda. Ce sont des Tutsis de l'Ouganda. Ils sont anglophones, pas tous. Certains viennent aussi du Burundi, mais ils ne connaissent pas la région. Et on cherche. Et puis on finit par trouver un garçon, un grand gaillard, qui s'appelle Gaspard et qui se propose de nous conduire à Nyarubuye. Pourquoi ? Parce que il était là, il était séminariste dans cette paroisse et il a fui au moment où les massacres allaient commencer. Nous montons dans les collines, entre les bananiers, le manioc, le sorgho, les grands eucalyptus sur cette piste de la térite rouge, et enfin nous apercevons cette église, église de briques construite par les missionnaires belges, qui se dresse devant nous, et là nous découvrons l'impossible.
On va essayer d'entrer dans l'église.
C'est une église en briques.
C'est une odeur épouvantable.
L'odeur est absolument épouvantable. L'odeur est...
C'est tellement que... La terre, à la terre même, on peut voir et vous voyez le cadavre.
Ouais, je sais pas, je vois. Je vais partir entre les bancs, partout. Des cadavres.
Vous voyez, ce sont des gens qui essayaient de se réfugier ici, dans les couloirs, derrière les murs.
Mais ils ont été tués comment? Avec des grenades, avec...
Des grenades, oui.
C'est des grenades qui ont été...
Des gendarmes. Et des gens, des interrames qui étaient entraînés.
On avance dans la mort.
C'est dans... Vous voyez les
chiens? C'est terrible, terrible.
Les chiens sont en train de manger les cadavres. Vous voyez,
on va complètement décomposer un os qui sort d'un tas de tissus.
On peut sortir?
Oui, on va sortir. Ah! C'est extraordinaire cet endroit où on arrive. On a fait des heures de piste pour arriver jusque-là, c'est la paroisse. Et là, par terre sur le sol, c'est absolument fabuleux ce qu'on voit, c'est des corps, ce qui reste de corps complètement desséchés. Complètement, il y a des dizaines de personnes. Le corps de cadavres absolument décharnés.
À l'intérieur, il y en a beaucoup.
Hein?
À l'intérieur de la maison. À l'intérieur même de l'église.
Qu'est-ce qui s'est passé?
À l'intérieur même de l'église.
C'est vraiment la mort, ce qu'on voit. Comment s'appelle la paroisse?
C'est la paroisse Signorouillé. Les gendarmes, les intérêts étaient ici près. Quand je prenais la fuite, j'ai pris la forêt ici.
Mais t'étais avec les gens, toi, t'étais avec eux?
Oui, j'étais
avec eux. Mais raconte-moi ce qui s'est passé.
Nous avions accueilli plus de 2500 personnes.
Dans l'église?
Ici.
Ces gens sont venus se cacher dans l'église.
Justement, ils venaient ici parce qu'ils croyaient trouver la protection, la sécurité ici.
Ouais.
Et les gens prenaient la fuite en se réfugiant dans les maisons des religieux et religieuses. Ici, c'est une maison des religieuses. Il y a un couvent des sœurs. Ici, c'est la maison des abbés.
Et donc, vous êtes tous enfermés dans l'église?
Non, pas enfermés. Mais ils circulaient ici, vous voyez. Les gens circulaient. Ils avaient peur. Ils voyaient les morts imminentes. Ils n'avaient pas où se réfugier. Où prenez la fuite? Alors, j'ai pris la fuite ici. J'ai couru dans la forêt. Et j'ai traversé la rivière à Kagera. Et pris la fuite. Je viens de la Tanzanie. Alors, les gens, il y a la femme, les enfants. Les gens sont... Tu n'as pas pu échapper à la mort. Vous voyez les cartes d'identité ici. Par exemple. C'est une carte d'identité.
Carte d'identité.
Vous voyez le...
Le nom est effacé.
Il est effacé. Mais quand même, la figure de la personne, vous pouvez...
Voilà.
Et ceux qui avaient la force de...
Sur quoi tu marches? C'est des ossements humains. Tu marches sur des...
Des ossements. Mais que voulez-vous? Que voulez-vous? Alors, vous voyez... Ceux qui avaient la force, nous avons pris la fuite. Allez, ça ici, les enfants, les femmes, même les parents. Les parents qui avaient des enfants, qui ne pouvaient même pas prendre la fuite avec toute la famille. Tout le monde essayait
de sauver sa vie.
De sauver sa vie. À l'intérieur de la maison, dans les couvents du ciel.
C'est fou. On n'ose pas. Les oiseaux, il y a des chiens qui... On passe dans une autre cour. C'est extra, c'est fou, fou. Il y a des fleurs, des iris jaunes.
Vous voyez, des fleurs d'argent. C'était cette chambre là, dans le coin.
Et là, il y a des cadavres, des cadavres. Des cadavres. Des crânes. La chair encore un peu sur les crânes.
Ah,
C'était la chapelle.
Ah.
C'était ma maison. J'habitais ici.
Je peux même voir les lettres. Ça, c'est ton courrier. Mmh. Là, il y a un bébé. C'était son courrier, ça. Parce que voilà, il y a tout un tas de petites croix en bois par terre sur le sol.
Oui, oui. J'avais un carton de petites croix. Mmh. C'était destiné aux catéchistes. Mmh. C'était la chapelle, c'était l'effectoire.
D'accord.
Il y a partout des cadavres.
Tout est volé. Détruit. Ah, il y a les cartouches.
Les cartouches aussi. On jetait des grenades. C'était chez le vieux.
Ah, c'est absolument épouvantable ce qu'on voit, c'est... Quantité de gens qui sont allongés, des corps en décomposition. L'odeur est absolument épouvantable. Là-bas encore des corps. Des gens qui ont essayé de fuir par le jardin. Non, on peut plus avancer. S'il y a avec des fleurs jaunes partout. C'était le jardin potager, ils ont essayé de fuir par là, ils sont. Des positions grotesques et c'est épouvantable. Et là, il y en a une quantité. Encore, encore, encore. La mort, la mort, la mort. Ah. On ne peut plus avancer. Oh. Oh non. Ah là-bas, ils sont des centaines et des centaines et des centaines. Il y a des mouches partout. Oh. Le soldat se barre, le soldat, là, notre escorte se barre complètement. Frappé jamais de ma vie, j'ai vu des choses pareilles. Des centaines, il faut que vous imaginiez des centaines et des centaines de gens. Des mouches, des empilés, des tissus, une puanteur, des corps encore boursouflés, d'autres desséchés, les crânes qui apparaissent avec un peu de chair encore dessus. Et un silence autour. Et puis ces gars qui sont avec nous, c'est... les gars du coin... Ah, il y en a encore là, dans l'herbe. L'herbe les recouvre. Il y en a encore là-bas, à l'intérieur des maisons. On a plus le courage, j'ai plus le courage.
Hein? C'est ça, c'était un hangar. Tous les réfugiés que nous avions accueillis, ils logeaient ici.
Un enfant vivant.
Non.
Où ça?
Un enfant vivant. Qu'est-ce qu'il raconte? Il devient fou. Ça devient dingue, dingue, dingue. Ah, c'est terrible, quand même. Oh.
Qu'est-ce qu'il y a?
Un gosse vivant.
Un enfant?
Un enfant.
Oubliez tous ces cadavres, viens.
Ça fait un mois et demi qu'il est là.
Un mois et demi.
Ah!
Oh. C'est pas le courage d'avancer parce qu'il faut marcher sur des cadavres. Il faut marcher sur des cadavres. Elle est là, elle vit là. Je sais pas si c'est une petite fille, c'est peut-être une femme. Elle est en train de... Elle a un petit miroir. Elle a des... Les genres de patates, elle a de l'eau, elle a un tout petit bout de tissu sur elle. Elle est, c'est invraisemblable ce qu'on voit, c'est invraisemblable. C'est fou, il y a une odeur pestilentielle. Et, elle a la main complètement atrophiée, complètement noire, elle a la gangrène à une main. C'était encore un peu de vie dans toute cette mort. Qu'est-ce qu'on fait?
On l'amène.
On va l'emmener avec nous.
C'est marqué où tout de suite? Tout de suite, c'est marqué où? Ah, ici, Otto Barré.
Well, Otto Barré. Toi aussi, ici, c'est Barré. C'est tout de suite ici.
Est-ce qu'elle peut marcher?
Elle vient de protester, elle dit, vous me prenez ma nourriture, donc elle tient beaucoup à cette nourriture parce qu'elle a vécu cette situation, il n'y avait plus pratiquement rien.
Mais depuis combien de temps elle est là?
Justement.
Depuis le massacre?
Depuis les massacres. C'est vers la date du 14, 16 comme ça?
Depuis 14 avril. Et on est le 27 mai.
Finalement.
Donc, voilà, il la porte dans la couverture. Et elle tient beaucoup à sa nourriture. Elle a demandé, il y a un pied par terre. C'est macabre, c'est du délire, c'est fou, c'est une folie. C'est... Et là, il y a un pot. D'un pot absolument vide avec le drapeau de la communauté européenne qui est là. On marche dans les corps. Des squelettes partout. Dis-moi, qu'est-ce que vous allez en faire de Valentine?
De Valentine?
Oui, vous allez la transporter?
Vous allez la transporter, la mener au camp. On va l'aider là-bas.
Il y a des médecins là-bas, au camp?
Il y a un médecin, mais je ne sais pas les formations, mais il y en a. Je vois les filles qui aident les malades, mais je ne sais pas les formations.
Mais pourquoi on ne veut pas de médecins sans frontières ici?
Il n'y en a pas.
Et pourquoi il n'y en a pas?
J'ai jamais vu de traces au camp.
Et pourquoi on ne l'emmène pas de l'autre côté de la frontière pour se faire soigner?
Je ne sais pas. Je suis un réfugié comme les autres. Je ne sais pas si...
Est-ce que tu as déjà vu ça? Tu as déjà vu une chose pareille?
Non. I think the first time it was at Rousseau.
The first time, la première fois quand j'ai vu ça, c'était sur la rivière de Rousseau. Dans la rivière de la Caguera. C'est la première fois que je voyais beaucoup de cadavres comme ça.
Tu as déjà vu quelque chose comme ça?
Yeah, I don't understand French.
Beaucoup de gens ne m'ont pas comme ça.
Never in my life.
It's
terrible.
Qu'est-ce que tu penses?
Oh, I think this is a terrible thing to see and to do at all. You can't do such a thing in life. It's impossible.
On ne peut pas penser à ce que des choses pareilles puissent se passer dans ce monde.
On ne pense jamais qu'on pourrait avoir une chose comme ça dans sa vie. C'est des journalistes de Tantani qui sont là avec nous.
Ils ont voulu me couper la tête et comme on m'avait dit que chaque fois qu'on fait un coup de machette au niveau de l'oreille, qu'on meurt directement, j'y ai placé ma main et voilà que c'est mes doigts qui ont payé. Ils m'ont tabassé avec des massues, avec des gourdins. Puis je les ai laissés parce que je ne pouvais rien.
Hano muri iki kigo cya paroisse ahantu wihishe mbere ni hehe? Mungoma.
La première fois je me suis cassé dans l'église et au milieu des tambours. Je me suis caché de l'autre côté vers le couvent des sœurs.
C'est mauvais. Je ne pouvais pas imaginer qu'on puisse faire une chose. Il y a des gars qui sont autour, des militaires avec des mouchoirs sur le nez, le gars, le séminariste là, avec sa casquette et son mouchoir. Les bidasses avec leurs baskets et leurs calaches qui sont autour. Et cette gamine avec des grands yeux. Extraordinaire.
Hier, quelqu'un est passé, c'était de la maisonnette. Ils étaient à deux, ils avaient un porte récepteur. Puis quand j'ai entendu la radio, et puis je me suis dit que c'était une autre attaque, et je me suis cassé davantage. Ce jeune homme l'a regardé, puis il est reparti. Cet homme-là, il a repoussé sa main après ne m'avoir pas vu. Et je me suis dit à un moment donné, si j'avais manifesté que j'étais là, Peut-être que ce sera quelqu'un qui venait pour me sauver, mais je me suis dit que c'était quelqu'un qui pourrait m'achever. Je me suis tué. Et je l'ai regretté à un moment donné. Oui, je savais très bien que tout le monde avec les cadavres. Je voyais des corps allongés, des gens qui étaient nus. Donc, tout ça, j'ai vu, je voyais mes demi-frères, mes cousins, je les ai vus, dont Moulefou, un oncle à moi.
Comment, à quoi tu pensais pour tenir? À quoi tu pensais tout le temps? Est-ce que tu as prié? Est-ce que tu pensais?
Comme j'avais un seul billet de 100 francs rwandais, j'ai cherché ce billet, je ne l'ai pas trouvé, mais j'avais pensé à me procurer de quelque chose, mais où? Et tout ce que je me disais, et si je voyais quelqu'un pour lui envoyer m'acheter du pain avec mon billet de 100 francs? Dans ma vie, je ne rêvais qu'un jour, il faudrait que je voie, ne fût-ce qu'une seule fois le pain. Je cherchais le pain. Je souhaitais avoir un fanta, mais je ne trouvais rien. La nourriture qu'on a vue avec l'eau que vous aviez, vous l'avez trouvée où? J'ai entendu. J'ai vu quelqu'un qui ouvre la porte. Et puis comme moi j'étais dans une situation grave, j'ai demandé, toi qui viens, c'est qui? Et puis j'ai vu un garçon. Il habite dans les parages, ce garçon. Et ce garçon, on l'appelle Calixte, qui m'a amené à manger.
Quand est-ce qu'il a apporté à manger?
Aujourd'hui.
Ce jeune homme qui m'a amené à manger, il vient à peine de partir. Quand vous êtes arrivé, il partait. Vous avez vu, même cette nourriture, vous avez vu, je ne l'ai pas encore mangé. C'est la première fois qu'il t'a amené à manger? Oui, c'est la première fois qu'il arrive, j'allais mourir.
Est-ce que tu voulais mourir?
Je souhaitais voir le Front Patriotique venir. Je souhaitais rencontrer les immortaliers du FPR pour qu'ils me transportent là où ils ont mis les autres aussi. Salut Mohamed, il s'interroge, il dit que font les Boutros Ghali, ils n'ont qu'à venir ici voir. Ces gens de l'OIOA, ils n'ont qu'à venir ici voir quand ils nous demandent de négocier avec le gouvernement qui a organisé cela.
C'est les premiers journalistes qui viennent ici, on est les premiers journalistes avec nous.
Nous sommes les premiers à arriver ici avec nos confrères de...
Tanzanie,
ouais.
Et personne, et il y a cette petite Valentine là. On est en train de la prendre, elle est très légère évidemment. Et on va la mettre dans le petit combi Toyota avec les militaires. Ah, il y a des gars qui ont pensé à lui prendre sa petite natte, une natte, voilà.
Voilà, c'était le 27 mai 1994, donc à la paroisse de Nyarubuye, dans le sud-est du Rwanda. Il a été impossible d'emmener Valentine Iribagiza, on dit Iribagiza Valentine, le prénom vient à la fin, Rwanda. Il était impossible de la ramener du côté de la Tanzanie, où il y avait tous les humanitaires du monde qui étaient là. Et le FPR, donc, les militaires l'ont emmené, non loin de là, dans leur camp, à Kibungo, où nous l'avons retrouvé, mais l'année suivante. Merci à tous, merci à Gaspard Ngarambe, à Jérôme Bastion, à Salvatore Mbouye-Kouré, notre traducteur. Merci aussi à notre chauffeur de cette époque-là, Sakamai. Merci aussi à Guy Vanctil. Réalisation Antoine Chao, Koye Nguyen, Andelgia Ferry, Christophe Imbert, c'est l'équipe de la base, j'y suis. Technique aujourd'hui, Sandrine Laurent et Philippe Duclos, le répondeur de la base, si j'y suis, vous connaissez le numéro, c'est le 01 56 40 37 37, 01 56 40 37 37, et le mail de la base, si j'y suis, c'est daniel.mermet@radiofrance.com. On est retourné souvent dans cet endroit, à Nyarubuye, depuis, non seulement en 95, mais en 96, et puis ensuite en 2003, et puis là tout récemment. Et notre but était de reconstituer cette histoire que Valentine a juste esquissée, qui était ce Calixte, par exemple, qui, quelques heures avant que nous arrivions, lui a apporté à manger. Pourquoi tout soudain, quelqu'un, au bout de 40 jours, lui apporte à manger? Ben, on l'a découvert il y a 2 semaines. C'était un tueur, c'était un Ramoué, un milicien, mais qui, sentant le vent tourner soudain, dans l'espoir de sauver sa peau, lui avait apporté à manger quelques heures auparavant. Et au moment où nous sommes arrivés, donc elle entendait depuis longtemps, dans le silence de ce pays, nos voitures arriver, elle n'avait pas encore commencé, elle commençait juste à manger au moment où nous sommes arrivés. Valentine nous a raconté son histoire, et autour de son récit, nous allons essayer avec vous de reconstruire tout ce qui s'est passé, le massacre de Nyarubuye, heure par heure, en ce 13, 14 et 15 avril 1994. Pub.